À l'émission Marché en creusant, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre « Traverser nos fragilités », animée par le père Bernard Rugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.
Quand nous parlons de la fragilité, quand nous nous interrogeons sur le sens de ce que nous vivons, souvent nous nous posons aussi la question « Où est Dieu ?» Quand nous accompagnons des personnes fragiles ou quand nous faisons nous-mêmes l'expérience de notre faiblesse, nous nous tournons spontanément vers Dieu. Et c'est vrai que les psaumes nous disent qu'il entend toujours le cri des pauvres. Spontanément, nous attendons qu'il agisse sans délai, de façon visible. Il nous est dit qu'il est tout-puissant, qu'il est tout amour, et bien qu'il le prouve, surtout vis-à-vis de nous qui lui sommes fidèles, si par exemple nous faisons partie des personnes qui pratiquent régulièrement ou qui au moins prient régulièrement, font parfois des dons, brûlent des cierges, etc. En fait, parler de toute-puissance à propos de Dieu, ce n'est pas si simple que ça. Parce que comment s'exprime cette toute-puissance ? Est-ce que ça voudrait dire, par exemple, et parfois c'est ainsi qu'on comprend la providence, que Dieu aurait tous les droits sur notre vie, notre liberté, qu'il interviendrait continuellement dans notre existence, qu'il pourrait même changer les lois de la nature au gré de nos besoins ? Et nous le savons, quand par exemple nous voulons absolument qu'il nous donne du beau temps pour telle fête, par exemple, ou qu'il nous donne tel ou tel avantage lorsque nous cherchons une solution à un problème. Ou bien quand nous lui reprochons qu'il y a eu tel accident et qu'il n'aurait pas fait ce qu'il aurait dû faire. Est-ce que vraiment Dieu dirige de loin tous les événements de la planète ? Est-ce que c'est si simple, si évident ? Mais si c'est le cas, si effectivement il contrôlait tout, alors pourquoi est-il si silencieux, si absent ? Parce qu'il nous est dit non seulement qu'il est tout-puissant, mais aussi qu'il est tout amour. Ces questions taraudent bien des personnes qui sont dans la nuit, dans la souffrance, et peut-être nous parfois certains jours, lorsque nous voyons le mal et la souffrance dans le monde, lorsque nous avons l'impression qu'il y a comme une injustice. Et il est vrai qu'une des raisons pour lesquelles un nombre croissant de personnes se tournent vers des religions sans Dieu, comme le bouddhisme ou le taoïsme, si on peut parler de religion dans ce cas-là, ou vers des spiritualités qu'on dit du Nouvel Âge, du New Age, où il n'y a pas de divinité personnelle, où la divinité est une grande totalité cosmique, énergétique. Eh bien, s'il y a tant de gens qui se tournent vers cette conception de Dieu, vers cette relation à un divin, c'est parce que, dans ces propositions-là, cette question-là ne se pose pas. Et d'ailleurs, c'est ce que diront les bouddhistes. Quand on leur posera la question de l'origine du mal, ils diront « nous ne posons pas la question de l'origine ». Nous constatons qu'il y a du mal et de la souffrance dans le monde et que l'homme peut faire quelque chose pour diminuer ce rapport à la souffrance, pour gagner en liberté. Et c'est un spécialiste du bouddhisme qui nous dit, Denis Girard, que les raisons pour lesquelles les chrétiens et d'autres sont attirés par le bouddhisme. Je cite un passage d'un article. Aujourd'hui, dit-il, pour de nombreux chercheurs de vérité, la notion de Dieu, et surtout, semble-t-il, du Dieu chrétien, est devenue irrecevable. Ce rejet du Dieu chrétien est lié au problème très classique du mal. Que dire en effet de l'existence d'un Dieu tout-puissant, d'un Dieu d'amour qui veut le bien de tous les êtres, mais apparemment ne peut ou ne veut rien faire pour des multitudes d'humains qui naissent et meurent dans la misère et la souffrance ? Et il constate que ce rejet de Dieu est souvent accompagné d'un rejet du christianisme. Pour certaines personnes, le christianisme aurait culpabilisé l'homme au point de le paralyser dans son évolution intérieure. Alors comment l'aurait trop culpabilisé ? Eh bien, pour échapper à cette culpabilité, à certaines contraintes morales qui les empêcheraient de s'épanouir dans la liberté, ou plus simplement de vivre leurs limites, leurs échecs, sans culpabilisation excessive, certains se coupent de cette source. Pour eux, la foi chrétienne se réduirait à des dogmes qui enferment la vérité dans des formules toutes faites, inutiles, illusoires, trompeuses même. Et il poursuit en montrant que l'importance que revêt pour ces personnes l'expérience comme le critère de vérité individuelle et la large diffusion de l'idée que chaque individu doit prendre en main son développement humain et spirituel explique en partie cela. C'est ce que Denis Girard constate à partir de sa rencontre et de son dialogue avec des bouddhistes et des chrétiens qui deviennent bouddhistes. Dans la tradition chrétienne, nous parlons à la fois de la paternité et de la toute-puissance de Dieu. Est-ce conciliable ? Le problème de la toute-puissance de Dieu est sérieux, car il est lié à la question du mal. Et il trouble les personnes que nous accompagnons. Très souvent, nous retrouvons dans notre liturgie l'expression « Dieu Tout-Puissant, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, toi le Dieu Tout-Puissant, etc. » Nous le retrouvons dans le vocabulaire chrétien habituel. Or, entendre parler d'un Père qui serait Tout-Puissant, pour des personnes qui ont vécu la paternité ou la maternité humaine, cela ne correspond pas à leur expérience. Au contraire, ils expérimentent quotidiennement que la relation entre parents et enfants est plus de l'ordre de la vulnérabilité et de la gratuité, de la responsabilité, certes, mais certes pas de la puissance. Que peut signifier alors un père tout-puissant pour des parents qui ont un enfant en train de mourir d'une pathologie grave, ou pour un couple qui se déchire, ou pour quelqu'un qui s'épuise à lutter contre un cancer et qui se sent abandonné ? Surtout quand il s'agit de personnes qui pratiquent leur foi et qui ont le sentiment d'avoir fait tout ce qu'il faut, comme on dit, qui ont reçu tous les sacrements, qui vont de temps en temps à la messe, qui lisent le chapelet, qui font peut-être même partie de groupes de prière. Comme Job, qui a fait aussi cette expérience d'un Dieu qui semble tellement lointain au moment de l'épreuve dans le Premier Testament, ces personnes se demandent ce que fait le Dieu Tout-Puissant. Particulièrement dans le judaïsme, il nous est dit que le juste est béni en surabondance. Et il y a de nombreux textes, entre autres dans les psaumes, qui nous disent cela. Et donc s'il rencontre un échec grave, une maladie grave, il peut être tenté de se croire rejeté, puni par Dieu. Chez les chrétiens aussi, on entend souvent « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour attraper telle maladie, pour être frappé par telle épreuve ?» Et bien sûr, si on a l'impression que sa maladie est une punition, alors on s'interroge. Ne suis-je pas juste ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qu'est-ce que j'ai transgressé ? Et c'est ainsi que les amis de Job ont essayé de le convaincre qu'en fait, s'il est passé par une épreuve grave, c'est parce qu'il avait été infidèle, injuste. Or, Job nie cela. Et souvent, c'est ce que nous pouvons vivre nous-mêmes aussi comme expérience. Les personnes qui sont engagées dans un service comme l'accompagnement spirituel ou dans un travail de soins, de thérapeute, font régulièrement l'expérience du sentiment de culpabilité que vivent des gens malades ou des personnes fragiles. Combien s'interrogent ? Est-ce que j'ai dysfonctionné pour attraper telle ou telle maladie ? En outre, nos sociétés renvoient comme cause des maladies à l'alcoolisme, au tabagisme, au mode de vie, et tout ça est encore plus culpabilisant. Puis elle se culpabilise également parce qu'une fois malade et dépendante, elle pèse sur les autres. C'est souvent la souffrance des personnes âgées. Quand elles disent « ce qu'il y a de plus dur, c'est de se sentir inutile et à charge des autres ». Elles se disent parfois « je suis devenu un poids pour les autres, la famille, la société, ils vont finir par m'en vouloir ». Dans une société d'excellence, il y a aussi la honte de ne pas remplir sa fonction ou d'avoir un agenda vide, par exemple, si on est un actif. Quand s'ajoute l'image d'un Dieu tout-puissant qui est en surplomb et qui semble juger de là-haut, cela devient encore plus difficile. Il est aussi difficile de garder l'estime de soi, alors que nous en avons tellement besoin lorsque nous sentons notre visage défiguré. Or, l'enseignement à propos de la toute-puissance de Dieu est un enseignement classique dans l'Église, on le retrouve dans le langage de la théologie traditionnelle. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est quel sens lui donner, car on ne peut pas simplement éliminer ce vocabulaire. Quand on prend par exemple le catéchisme de l'Église catholique, on en parle brièvement, et en fait, les problèmes que cela pose ne sont pas vraiment envisagés, affrontés. Par exemple, dans le paragraphe 268 de ce catéchisme, on peut lire « de tous les attributs divins, seule la toute-puissance de Dieu est nommée dans le symbole des apôtres. Confesser cette toute-puissance est d'une grande portée dans notre vie. Nous croyons qu'elle est universelle, car Dieu qui a tout créé régit tout et peut tout, aimante, car Dieu est notre Père, mystérieuse, car seule la foi peut la discerner lorsqu'elle se déploie dans la faiblesse. Rien ne lui est donc impossible. Et il dispose à son gré de son œuvre. Il est le Seigneur de l'univers, dont il a établi l'ordre qui lui demeure entièrement soumis et disponible. Il est le maître de l'histoire. » Je continue, « la toute-puissance de Dieu n'est nullement arbitraire, de sorte que rien ne peut être dans la puissance divine qui ne puisse être dans sa juste volonté, dans la juste volonté de Dieu ou dans sa sagesse intelligente. » Et un peu plus loin, au paragraphe 272, le catéchisme poursuit en parlant du mystère de l'apparente impuissance de Dieu lorsque la foi est mise à l'épreuve. On lit « Dieu le Père a révélé sa toute-puissance de la façon la plus mystérieuse dans l'abaissement volontaire et dans la résurrection de son Fils par lesquels il a vaincu le mal. » Oui, c'est vrai, nous croyons profondément que le Fils a vaincu le mal et que pour finir la résurrection l'emporte. Mais quand il est affirmé que tout est soumis et disponible pour Dieu, c'est difficile à entendre quand la réalité du quotidien donne l'impression qu'il est mis en échec. Est-ce que véritablement Dieu régit tout et peut tout lorsqu'on voit la souffrance du monde, la liberté de l'homme aussi? L'impression que la justice fait un tellement grand nombre de victimes aujourd'hui. Est-ce que c'est Dieu qui serait injuste? Bien sûr, il y a aussi le bien et l'amour qui sont à l'œuvre partout. Il y a la grâce qui est à l'œuvre également, mais de façon moins spectaculaire et moins bruyante. Et le sentiment que l'on a ces derniers temps, dans ce processus de mondialisation, c'est que ce qu'on appelle l'ordre mondial ressemble de plus en plus à un désordre généralisé au détriment des plus faibles. Alors, cette puissance de Dieu qui dispose à son gré de toute son œuvre, comme il est dit, semble tout d'un coup inefficace à certains moments devant certaines réalités. Et même si nous croyons que Dieu est capable de tirer du bien du mal, nous sommes confrontés à des souffrances, à des violences, à un mal qui sont souvent révoltants et insupportables pour l'homme d'aujourd'hui. Épreuve pour la foi, scandale pour certains, qui préfèrent nier l'existence de ce Dieu-là. Comment accueillir le discours sur la toute-puissance devant la réalité du quotidien et face à la souffrance? Il nous faut approfondir le sens à donner à cette expression. Mais avant cela, on a noté que c'est le seul attribut reconnu à Dieu, c'est la toute-puissance dans le symbole des apôtres. Et certains auraient bien voulu qu'on dise clairement que Dieu aussi est à tout amour. Et c'est pourquoi beaucoup se sont réjouis que, dans sa première encyclique, le pape Benoît XVI ait consacré sa réflexion à Dieu qui est amour. Quelle est la difficulté de nos contemporains aujourd'hui? Selon Maurice Bellet, prêtre et psychanalyste, entre autres dans son livre « Le Dieu pervers », c'est l'impression qu'ont les gens que la toute-puissance de Dieu s'exercerait contre l'homme. L'impression que Dieu serait jaloux du plaisir de l'homme, de son épanouissement, du moins dans la façon dont il est présenté par certains. Ainsi, l'homme n'aurait le droit de participer à la gloire de Dieu que dans la mesure où il respecte parfaitement toutes les prescriptions liturgiques, morales, ecclésiastiques, etc. Or, il y a tant de personnes aujourd'hui qui se sentent en situation non régulière. Des divorcés remariés, des jeunes en cohabitation juvénile, et parfois les problèmes en rapport avec l'homosexualité, etc. Et donc, dans une vision, une présentation de ce Dieu, on aurait l'impression que Dieu n'aimerait l'homme qu'à condition qu'il soit à la hauteur de ses attentes. À la limite qu'il soit parfait, on retrouve cette question. Des attentes qui apparaissent pour certains comme des formes d'aliénation, de non-respect de la liberté, une espèce de conformité totale à une exigence sans limite. Or, ce n'est pas cela que la spiritualité chrétienne nous enseigne. Au contraire, non seulement sur un chemin chrétien, nous sommes convaincus que la spiritualité chrétienne n'est pas déshumanisante, mais nous sommes même convaincus qu'il s'agit d'un chemin de divinisation et non de déshumanisation. Et ce sont les orthodoxes qui aiment employer cette expression en rapport avec la transfiguration de l'homme. Les orthodoxes mettent plus l'accent sur la transfiguration que sur le rachat. Malgré cette vision chrétienne positive de l'homme en christianisme, bien que nous soyons convaincus qu'il y a quelque chose d'injuste en présentant Dieu comme le font certains, il nous faut entendre le cri des pauvres, les cris des personnes en souffrance, plutôt que de répondre trop rapidement qu'elles n'ont rien compris à notre foi chrétienne. Il est plus important de nous interroger sur les raisons pour lesquelles tant de gens ont une vision si négative du christianisme, alors que l'Évangile nous enseigne l'inverse de ce qu'ils pensent souvent à propos de Dieu ou du Dieu des chrétiens. Nous l'avons déjà dit, il faut faire attention à la façon de parler de la perfection. Certains nous disent que nous sommes hypocrites quand nous en parlons comme ça, ou bien que nous sommes inhumains avec notre intolérance, notre intransigeance, nos culpabilités. Et alors ils ont l'impression que l'Église fonctionne selon une attitude qui ne connaîtrait pas d'alternative. On est dedans, on est dehors. La foi, c'est tout ou rien. Alors que beaucoup de nos chrétiens, de nos contemporains, se sentent plutôt en chemin, en recherche, se demandant s'ils peuvent être accueillis avec une foi balbutiante, teintée d'incroyance. Elles sont certes, ces personnes, dans l'Église, ou attirées par elles, comme ce qu'on appelle les recommençants à croire en France, mais en même temps à la marge, sur le seuil. Et elles voudraient bien assumer tout le credo, mais pas encore, c'est trop tôt. Peut-on les accueillir avec ce questionnement, surtout quand elles sont confrontées à la souffrance? Lorsque l'on parle de la volonté de Dieu, de quoi parle-t-on? Dans ce contexte où nous réfléchissons sur la toute-puissance de Dieu, le poète Charles Péguy disait combien, certains jours, il lui était difficile de dire en priant le Notre Père « Que ta volonté soit faite ». Il avait lui-même connu de graves épreuves dans sa vie. Alors, cette volonté, si elle était bien celle de Dieu, lui paraissait trop pesante. D'où son attrait pour le rosaire, Et pour la petite fille Espérance, comme il dit dans un de ses poèmes, celle qui conduit la foi et la charité en les tenant par la main, à travers l'obscurité des épreuves et de la difficulté de la vie. Que mettons-nous sous volonté de Dieu ? En tout cas, la volonté de notre Dieu n'est pas que nous souffrions. Ce n'est pas lui qui a créé ni inventé la souffrance. Il ne la veut pas plus pour nous que pour lui-même. Il est vrai qu'il y a des générations de personnes qu'on a canonisées ou béatifiées qui ont pensé plaire à Dieu en meurtrisant leur chair. Mais aujourd'hui, les évolutions de la théologie spirituelle, l'évolution des sciences humaines, l'éclairage des sciences humaines sur des motivations pas toujours très claires, nous poussent à resituer de tels comportements, lus autrement, dans le contexte de cette époque. Car le désir profond de Dieu, sa volonté de Père, dont on nous dit qu'il a aussi des entrailles de mère, c'est que nous soyons des vivants et que nous continuions à aimer et à nous laisser aimer malgré la souffrance, au cœur de la souffrance, et non pas que nous souffrions. La volonté de Dieu, qui est Père, c'est que nous puissions continuer à nous recevoir de lui comme des fils, des filles bien-aimés, même quand il nous semble absent ou lointain. Bien sûr, nous avons été créés comme des créatures limitées. Il y a donc en nous une part de finitude, de limite, de défaut, de fragilité. Et cela, bien sûr, est lié à la faiblesse corporelle, psychique, morale, au vieillissement. Et nous sommes invités à y consentir dans la confiance. Il ne s'agit pas de fuir la fragilité ou la souffrance. Certaines personnes en recherche de sens, qui sont honnêtes et qui essayent d'avoir des réponses à leur quête, ont du mal avec le système moral qu'ils trouvent coercitif, dans lequel on dirait « il faut mériter son salut ». Or, ce n'est pas cela que nous dit la tradition chrétienne. Certes, il existe encore aujourd'hui des courants spirituels qui enseignent qu'il faut mériter la grâce et demander des croix, comme si les croix ne venaient pas toutes seules à travers les expériences et les événements de la vie. Quelle tentation de toute puissance que de dire à Dieu « envoie-moi des croix ». Alors que personne ne peut prédire comment il réagira à la souffrance, à la diminution de ses capacités, au vieillissement. Quelle que soit la qualité de notre espérance. Ce discours met en opposition un Dieu qui est tout amour et la réalité souffrante qui éloigne parfois de lui et dont on le rend responsable. Et quand on nous présente le christianisme de cette façon, eh bien, nous, chrétiens, nous avons envie de protester. Nous ne sommes pas d'accord avec cette vision négative de Dieu. Ce n'est pas ce que nous vivons à l'intérieur de notre Église. Non, nous n'avons pas été mis en conformité. Nous avons une liberté de parole et d'initiative. Nous avons le droit à l'esprit critique. Nous avons le droit au plaisir aussi. Il n'y a pas de raison de le soupçonner. De nombreux chrétiens s'épanouissent dans leur communauté, sont heureux d'en faire partie, sont heureux de recevoir les sacrements, de vivre la fraternité. Il reste cependant important que les chrétiens s'interrogent comment tant de personnes aujourd'hui en sont-ils arrivés à une vision aussi négative de Dieu, du Dieu des chrétiens. Que s'est-il produit pour qu'à certaines époques, on parle ainsi de Dieu au point que des traces sont encore présentes dans la vision que tant de personnes ont de l'Évangile. On peut évidemment toujours dire que ce sont les médias qui caricaturent et qui exploitent systématiquement une vision négative de Dieu. Ce n'est pas suffisant. J'aime cette phrase de Julien Green qui est reprise par Maurice Zundel lorsqu'il dit « Aimer Dieu, c'est le protéger contre nous-mêmes ». C'est-à-dire qu'il nous faut être vigilants lorsque nous parlons de Dieu à propos des images que nous en avons données dans l'histoire du christianisme. Dieu juge, Dieu gendarme, Dieu intolérant, Dieu qui exige une perfection totale, on fait tout ce qu'il faut pour décourager la personne en chemin, le pauvre qui tombe. Cette idée qu'il nous faut respecter Dieu et presque le protéger contre nous-mêmes, nous la retrouvons aussi beaucoup plus tard chez Hetty Hillsum, cette jeune femme juive qui était incroyante, mais qui pourtant, à un certain moment, alors qu'elle est dans un camp de concentration, où elle commence à redécouvrir Dieu, eh bien se dit qu'il faut prendre la défense de Dieu contre ce que les hommes en ont fait. Et on lit dans son journal « Il m'apparaît de plus en plus clairement que chaque pulsation de mon cœur que tu ne peux pas nous aider. Mais c'est à nous de t'aider et de défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous. » Or, il faut bien interpréter cela. Cela ne veut pas dire que Dieu ne peut rien faire. Cela veut dire que Dieu n'agit pas sans nous. Quand on nous renvoie que Dieu est pour la souffrance, contre le plaisir, la sexualité, le corps, l'épanouissement, quand on nous dit « chez vous, plus on est malheureux sur terre, plus on sera heureux de l'autre côté », nous ne pouvons que protester et dire « ce n'est pas le Dieu révélé par l'Évangile ». Malheureusement, c'est profondément présent dans un imaginaire collectif. Il faut avoir le courage de regarder en face cette situation. On parle beaucoup de crise de la transmission, entre autres dans le domaine religieux. Mais ce qui est inquiétant, c'est que cette transmission d'une telle image de Dieu continue à fonctionner. Et elle est entretenue. Même si nous nous rendons compte que c'est totalement excessif. Il y a bien des personnes qui ont des comptes à régler avec le christianisme. Peut-être que certaines acceptent le Christ, peut-être même l'Évangile, mais alors l'Église, les clercs, les théologiens. Avec cette idée aussi que dans le fond, l'Église veut toujours cacher quelque chose. On le voit bien dans le succès d'un film ou d'un livre comme le Da Vinci Code de Dan Brown. Les gens se disent « oui, on nous cache des choses ». Alors nous avons à nous interroger par quelles attitudes, par quel langage renouvelé, par quelle présentation créative des vérités et des symboles chrétiens pouvons-nous donner accès à nos trésors, à notre source, car nous avons des trésors fabuleux à offrir. Ceci est d'autant plus urgent que beaucoup de chrétiens ont perdu la mémoire de leur tradition religieuse. Ils le sont souvent de façon superficielle, avec une pratique extérieure. Certains se sentent impuissants devant de telles questions. Il va nous falloir approfondir cette réflexion et continuer notre chemin ensemble.
Vous venez d'entendre « Marcher en creusant » avec le père Bernard Hugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.